Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Il y a des expériences cinématiques qui nous enchantent, au point qu'on aurait peur, en essayant de traduire en mots l'effet produit, d'en corrompre la beauté. C'est le cas pour les films d'animation du studio Ghibli. De Mon voisin Totoro au Voyage de Chihiro, en passant par Pompoko ou Le tombeau des Lucioles, ce sont des films qui émerveillent autant qu'ils émeuvent. Ce qui est impressionnant est non seulement la faculté pour le studio japonais de sortir quasi exclusivement des chefs-d'œuvre de l'animation, mais aussi l'immense diversité des univers créés par ces œuvres. On passe du monde violent et sombre de la guerre dans leur premier film, Nausicaa de la Vallée du Vent, à l'univers à la fois enfantin et psychédélique de Ponyo sur la falaise. Les films des studios Ghibli sont des triomphes esthétiques et commerciaux, sans pour autant rentrer dans une forme de conformité ou de commercialisation à outrance. Il n'y a pas de Ghibli Land, pas d'inondation des marchés domestiques et étrangers d'objets dérivés de mauvaise qualité. C'est un studio qui a su rester intègre, même en temps de crise, en s'appuyant notamment sur ses deux fondateurs, Hayao Miyazaki et Isao Takahata. C'est à partir du génie créatif de ces deux figures que se construit l'émission de Surpris par la nuit d'Olivia Gesbert, intitulée « Les bons génies du studio Ghibli, Hayao Miyazaki et Isao Takahata », diffusée pour la première fois le 24 mai 2006. La découverte y est double. Celle d'abord de l'histoire d'un studio qui a connu des difficultés aujourd'hui difficiles à imaginer, et celle ensuite d'un univers poétique, auquel chaque intervenant et intervenante a un rapport intime et particulier. Et c'est peut-être là le plus grand révélateur de la puissance de l'animation des studios Ghibli. Ce sont des œuvres qui ne peuvent être vues et reçues que de façon intime, précieuse, comme un souvenir d'enfance qui demeure à jamais irremplaçable.
Surpris par la nuit.
Les bons génies du studio Ghibli, Hayao Miyazaki et Isao Takahata.
On peut savoir où on va ?
Vers le sud ! Je veux voir la mer ! Titi, tu peux allumer la radio ? J'ose pas lâcher le balai ! Dépêche-toi !
On a une part d'enfance qui est peut-être la part la plus précieuse dans chacun de nous et Miyazaki s'adresse à cette part-là.
C'est absolument absurde d'imaginer quelqu'un au Japon qui ne connaîtrait pas ses films, par exemple. Et donc ils font partie des références les plus largement partagées par les Japonais aujourd'hui, toute génération, toute catégorie confondue.
Ça se voit ?
Oui, je viens de prendre mon envol, je suis nouvelle.
Peux-tu éteindre cette musique, s'il te plaît ? J'aime rester concentrée quand je vole.
Ah !
Il y a des gens qui ont des gens
Hayao Miyazaki, entretien réalisé à l'été 1999 par Ilan Nguyen.
Voilà ce que je pense. À l'instant, on veut l'exprimer par des mots, toute chose devient suspecte. Ça vous semblera peut-être bizarre, mais dès lors qu'on leur applique un mot, les choses me semblent se transformer instantanément en une boue informe. C'est pourquoi quand je fais un film, je ne le mets pas en mots. Je ne couche pas mes intentions sur le papier au préalable. Plus on observe en détail quelque chose, et moins on a envie d'utiliser le mot censé le décrire. Je pense que les mots sont réducteurs. Ils vous semblent toujours beaux et frais au moment où vous les utilisez, mais en réalité, ils se flétrissent dans l'instant. C'est ce qui fait que les poètes, par exemple, ne cessent de leur donner vie. Et c'est là un travail qui n'est possible que dans la durée, mais impensable dans cette société de l'information et de la consommation, où les mots deviennent eux aussi des produits.
C'était donc avant, bien sûr, l'escalade qui s'en est suivie avec Chihiro, puis le château de ambulant. Ce phénomène, donc, cette pression ont pris un tour et une envergure encore plus écrasant. Et aujourd'hui, effectivement, M. Miyazaki refuse toute apparition publique, toute prise de position, toute déclaration. Et son entourage, c'est pas une impression personnelle, hein, son entourage, effectivement, le protège comme il peut. Simplement, effectivement, il s'agit de constater que c'est la réalité de ce studio et de ce réalisateur aujourd'hui.
C'était il y a bien longtemps, dans une contrée lointaine, jadis recouverte de forêts. En ce temps-là, l'esprit de la nature veillait sur le monde sous la forme d'animaux gigantesques. Hommes et bêtes vivaient en harmonie. Mais les siècles passant, l'équilibre se modifia. Les rares forêts que l'homme n'avait pas saccagées furent alors protégées par des animaux immenses qui obéissaient au grand esprit de la forêt. C'était le temps des dieux et le temps des démons.
Xavier Kawatopor, initiateur du festival Nouvelles Images du Japon.
C'est la séquence d'introduction de Princesse Mononoke. Pour moi, c'est un souvenir de cinéma très fort. C'est-à-dire que lorsque j'ai vu ce film, je suis ressorti de la salle en me disant que j'avais vu assez de films dans l'année. C'est-à-dire que j'avais vu le film dans l'année avec lequel je voulais rester. C'était pour moi quelque chose qui était d'une forme d'une évidence, voilà. D'une certaine manière, ce film réalisait un petit peu un rêve de cinéma d'animation pour moi, c'est-à-dire un film qui soit à la fois un grand moment de cinéma, un grand espace de cinéma, le souffle de l'épopée. Je reconnaissais en fait vraiment l'accomplissement d'une forme d'attente du cinéma d'animation, et je crois que c'est un sentiment qui a dû être partagé par un grand nombre de spectateurs en France, puisque c'est effectivement le film qui est vraiment le déclenchement de la passion en France, la passion du grand public pour Miyazaki. Voilà. Alors, ce qui est aussi extraordinaire dans cette séquence, c'est d'une part l'espace, c'est-à-dire la nature aussi assez idéalisée, puisque c'est une zone frontière entre l'homme, la nature domestiquée par l'homme, et puis la nature sauvage. Donc c'est vraiment tout un espace de mythe, hein, la frontière. C'est une nature idéalisée, c'est une nature ancienne. C'est d'ailleurs que ça fait référence effectivement à tous les grands mythes qui sont les nôtres, dans les sociétés occidentales. Il y a quelque chose de très médiéval, de très héroïque dans cette mise en scène de départ. Puis voilà, là, il y a le surgissement de quelque chose qui dépasse complètement, qui surprend complètement toutes les attentes, qui est une espèce de monstre gluant, tentaculaire, qui avance comme un énorme tique, je ne saurais pas comment dire, un énorme insecte, et qui ronge la prairie devant laquelle on est. Déchaînement de puissance et d'imaginaire, parce que pour moi les deux vont avec. On a vraiment l'idée d'une puissance d'imagination qui se met en branle et qui dévore tout.
Répugnant. répugnante créature, bientôt vous goûterez l'amertume de ma haine avec la perte d'un être qui vous est cher.
Voilà, ce qui est aussi très très marquant dans la fascination qu'a exercé pour moi le cinéma de Miyazaki, c'est ces changements de rythme et ce moment où le cinéma d'animation prend son temps, prend le temps effectivement. Là, on est à l'intérieur d'une maison, enfin de la maison communautaire, et on a pris le temps de situer les personnages, d'entendre le roulement des petits galets sur la peau qui est tendue devant la chamane. Voilà, c'est cette rupture de ton et cette façon dont on sent vibrer le temps à l'intérieur du film qui est pour moi très, très saisissant.
Tenez bon, nous sommes presque arrivés, mais surtout restez vigilants.
Des loups !
Des loups ! Protégez
des loups !
Rassurez les bêtes! En position! Calmement!
Ne mouillez pas la poudre! Attendez qu'il se rapproche!
Voilà, alors là, on a des petites choses qui, dans les détails, sont très intéressantes. Les fusils qui vont être braqués sur les loups géants, et qui sont noueux comme le corps du sanglier de tout à l'heure. On voit bien qu'il y a un indice qui est donné par Miyazaki sur l'origine du mal. L'origine du mal, c'est la métallurgie, c'est le début de la sidérurgie, c'est le début de l'industrialisation de l'espace, enfin de la société. Et cette figure, cette image très absolument incroyable de ces loups géants.
C'était les louveteaux, à temps de voir leur mère.
Qui viennent donc attaquer le convoi. Et ce qui est formidable aussi dans ce film, c'est que, et dans l'œuvre de Miyazaki en général, c'est qu'on n'explique pas, on n'a pas besoin d'explication. Pourquoi ces loups sont-ils géants par rapport aux hommes? Ça n'est dit à aucun moment du film, et à la fois ça va de soi. C'est-à-dire qu'on est effectivement on n'est pas dans la nature, on est dans la force de la nature, la personnification de force de la nature.
On a perdu quelques hommes.
Reprenons la marche.
Que fait-on de ceux qu'elle a poussés dans le ravin?
Tu m'as entendu? Qu'est-ce que vous êtes?
Stéphane Alpert, responsable de la section internationale du studio Ghibli.
When I started working for Ghibli, Miyazaki-san was just...
Quand j'ai commencé à travailler à Ghibli, Miyazaki était en train de finir Princesse Mononoke. Difficile à ce moment-là de savoir quel serait le destin de ce film. Puis Princesse Mononoke est sortie au Japon et ce fut un énorme succès.
I was kind of amazed because I was personally interviewed by ABC News and CNN and Time Magazine, you know, and The Economist and The New York Times. All of these big publications are suddenly
toute la presse mondiale s'est soudain intéressée à Ghibli.
And partly, of course, the money. You know, when something makes a lot of money, they're always interested.
D'abord parce que, comme à chaque fois qu'il y a de l'argent en jeu, bien sûr, ça attire les regards. Mais surtout parce que c'était un véritable phénomène de société. Tant de gens sont allés voir ce film au Japon. Jusqu'ici, vous savez, le box-office japonais était détenu par E.T. depuis 1983. Et Princesse Mononoke a réussi ce qu'aucun film n'était parvenu à faire depuis 15 ans, exploser le box-office. Et les observateurs voulaient savoir d'où venait ce phénomène. Ilan Nguyen traducteur et spécialiste du cinéma d'animation japonais.
Le studio Ghibli est né en fait après, administrativement parlant, le studio a été créé après la sortie de Nausicaa de la Vallée du Vent en mars 1984. C'était notamment la position de Takahata. Il disait aux décideurs du groupe Tokuba, si vous avez l'intention de produire du dessin animé à moyen terme et au-delà d'une logique comme ça de coût, de manière unique, eh bien il faut fonder un studio.
Donc dès le début de l'aventure, en fait, du studio Ghibli, il y a déjà les trois personnalités fortes du studio qui sont Hayao Miyazaki, Isao Takahata et Toshio Suzuki, qui sera le directeur, qui était producteur et qui sera ensuite le directeur du studio. C'est bien ça?
Takahata, le premier d'entre eux, effectivement, est aujourd'hui encore, je pense, des trois, le mentor. En tout cas, c'est celui qui a la plus grande autorité morale et celui qui... C'est pas du tout un responsable, il n'est pas placé à un poste particulièrement élevé au sein du studio. C'est tout à fait volontaire de sa part d'éviter ce type d'évolution, mais disons que son avis a une importance particulière. Et dans la relation qui le lie à Miyazaki depuis maintenant 40 ans, puisque les deux hommes ont commencé à travailler au milieu des années 60 ensemble au studio de Toei, eh bien, il y a un rapport de tension effectivement créative qui est un très grand partage, bien sûr, dans leur vision du monde, dans leur conception, dans leur mentalité, dans leur réflexion. Et également, un certain nombre de différences qui fondent l'écart qui se creuse un petit peu entre leurs films au cours des dernières années. Mais entre les deux, entre Takahata et Miyazaki, on a un rapport qui reste un rapport de maître à élève. Miyazaki, c'est donc ce personnage un peu fulgurant, une sorte de tornade créative qui, dès ses débuts à Toei, s'est fait remarquer pour un acharnement créatif et une forme de volonté de faire qui lui a valu de se voir prédire, effectivement, dès cette époque-là, un avenir assez brillant. Maintenant, pour essayer de situer peut-être en un mot Suzuki par rapport à ces deux hommes, Suzuki, elle est donc, ça reste un producteur, effectivement. Donc c'est par définition, un personnage un petit peu trouble, un petit peu redoutable, et qui est toujours un petit peu sur une sorte de crête, sur une sorte de ligne limite, et qui parvient à mener sa barque et ses projets. Il est tout à fait, bien sûr, il a décidé de se mettre au service de ces deux réalisateurs, de ces deux personnalités créatives, pour que ces deux réalisateurs donc, aient la parole.
Koganei, banlieue de Tokyo. On dit du studio Ghibli qu'il est le temple de l'animation japonaise. Une considération trompeuse pour ceux qui, comme moi, certains jours comme celui-ci, ne se fient qu'aux apparences. Souvenirs de murs blancs, de linge séchant dans un couloir du studio, de lumières éteintes et de rires silencieux. La production est au point mort, les crayons sont restés dans leur peau et des feuilles de dessin inanimées. Jusqu'au mont Fuji, invisible ce jour-là. Heureusement, il y avait le fantôme de Miyazaki, le sens de l'orientation de Stéphane Alpert et la vigoureuse poignée de main de Toshio Suzuki.
So, originally, all the buildings in Studio Ghibli are designed.
Alors voilà, ce bâtiment a été conçu par Miyazaki.
Originally, it was just this building. So, up until Princess Mononoke, everything was done in this one building.
Depuis Princesse Mononoke, ils en ont construit deux de plus. Le studio avait besoin de plus d'espace. Alors, on va commencer par le haut.
And there is three floors, huh? Three floors, yeah.
Trois étages à monter avant d'atteindre le haut. What's that?
This was a gift from Pixar.
Alors là, c'est un cadeau de Pixar. Vous pouvez reconnaître, bien sûr, Totoro. Et les personnages de Monster Inc. Les artistes de Pixar ont signé ce panneau quand ils sont venus ici, à Ghibli, à Tokyo. Car les équipes de Pixar sont toujours les premières invitées à venir voir les nouvelles productions Ghibli. C'est une preuve d'amitié. Le bureau de M. Suzuki.
Ah, bonjour.
Le studio se fonde quand même autour de la personnalité de Miyazaki-san. Qu'est-ce que vous avez décelé, vous, Monsieur Suzuki, dans cette personnalité qui vous paraissait être suffisante pour fonder un studio autour de cette personnalité-là?
Very difficult.
Dans les années 70, déjà nous avions des conversations interminables sur le cinéma, sur la politique et dans beaucoup d'autres domaines. Je crois qu'il y avait une vraie connivence idéologique entre nous. Percevions le monde de la même façon et c'est peut-être ça, au fond, qui nous a rapprochés. Notre engagement, par exemple, nous étions tous des hommes de gauche. Pourquoi, à votre avis, la viande de Porco Rosso est-il rouge ? Vous savez, si pour certains c'est passé de mode, moi je continue à voir le communisme comme une sorte d'idéal. Un idéal qui m'habite encore, même si nous avons tous été un peu déçus par les expériences chinoises et soviétiques. Aujourd'hui, il est bon ton de dire que les forces économiques dictent la marche du monde. Moi, je pense au contraire que nous évoluons dans un monde éminemment politique. Et si la jeune génération d'animateurs prenait conscience de cela, eh bien, ce serait plus facile pour eux de savoir vers quoi orienter leur travail, quel contenu lui donner. Vous savez, dans leur jeunesse, Miyazaki et Takahata ont milité dans le syndicat du studio Toei, là où ils se sont connus. Ils en ont gardé plus qu'un souvenir, je pense, un engagement. Chacun de leurs films, depuis, porte la trace de cette conscience collective. Regardez Pompoko de Isao Takahata, sorti cette année en France. Il est impossible de le réduire au simple affrontement entre les tanuki et les humains. Pour preuve, quand M. Miyazaki a vu ce film, il en est ressorti très ému. Moi, je pense qu'il a su lire entre les lignes et qu'il y a vu l'influence des activités qu'ils exerçaient l'un et l'autre au sein du studio Toei.
Maintenant, il répond tout de suite.
L'une des figures essentielles du dessin animé qui a influencé Takahata et Miyazaki au départ, au commencement de leur œuvre respective, c'est Paul Grimaud. Et ce n'est pas non plus, un hasard, puisque Paul Grimaud était lié à Prévert, et avec Prévert, c'est le groupe Octobre qui effectivement a influencé en particulier Takahata, qui a étudié l'œuvre de Prévert, qui a traduit l'œuvre de Prévert, enfin qui, on pourrait dire de Takahata que c'est le disciple peut-être le lointain, mais sans doute pas le moins proche dans ses affinités de Paul Grimaud.
Alors selon l'anecdote, en tout cas, Takahata et Miyazaki ont pu se procurer les bobines de La Bergère et du Ramoneur et ils ont étudié le film plan par plan, image par image. En quoi Paul Grimaud les a influencés ?
L'influence de Paul Grimaud est très visible dans les deux œuvres, mais de façon complètement différente. On pourrait dire que chez Takahata, l'influence de Paul Grimaud est une influence, effectivement, on va dire, esthétique au sens politique du terme, c'est-à-dire que Takahata apprend avec Paul Grimaud à développer sa propre vision esthétique du dessin animé en s'émancipant des grands modèles, enfin des grands modèles qui étaient les studios américains. Et Takahata forme le souhait à partir de la vision de La Bergère et du Ramoneur de parler du Japon, de la réalité sociale du Japon qui l'entoure. Chez Miyazaki, ce sont davantage des motifs qui influencent, et donc c'est plus visible à l'écran. Chez Miyazaki, vous regardez le château dans le ciel, évidemment, tous les motifs de Paul Grimaud sont là, c'est-à-dire le château dans le ciel, ça devient Laputa, donc le château, enfin le château du roi et l'oiseau devient la cité dans le ciel du film de Miyazaki. On a ce duo entre un petit mineur et une princesse, donc de l'autre côté c'est la bergère et le ramoneur. On a le méchant roi qui les poursuit, on a jusqu'au robot géant qui est effectivement un emprunt, enfin plus qu'un emprunt, un hommage très appuyé à l'œuvre de Paul Grimaud. Mais c'est au-delà de ce film-là, les motifs qui sont mis en place dans le château dans le ciel et qui existent d'ailleurs déjà avant dans l'œuvre de Miyazaki parcourent jusqu'au château ambulant, parcourent l'œuvre de Miyazaki comme une forme d'obsession. Il y a aussi Miyazaki a dit aussi que Grimaud avait inventé la verticalité dans le cinéma d'animation. C'est vrai que, effectivement, la façon dont est mis en scène, dont est dessiné le château du roi et l'oiseau, crée une dimension particulière dans le dessin animé, qui est une dimension assez inédite et qui, effectivement, ouvre une perspective très particulière chez Miyazaki. Il y a cette magie, cette fascination pour l'envol et pour les univers aériens qui existe dans le roi et l'oiseau, que cette perspective verticale ouvre et que Miyazaki réexploite d'un bout à l'autre de son cinéma.
Ce lieu a été conçu comme une aire de repos. C'est le fils de Yoshio Miyazaki qui l'a conçu, c'est un architecte paysagiste.
This is a special kind of dirt that's very very lightweight. So even if it gets soaking wet, it won't collapse the roof. And all of these are skylights.
Il a conçu ce toit de manière à ce que la lumière filtre partout dans le bâtiment pour que les animateurs dessinent au clair.
Everything is designed and thinking about. It's like a submarine. Everything is designed to be flexible and movable and have.
Au fond, c'est un peu comme un sous-marin. Tout est échangeable et transformable en fonction du but recherché. Par beau temps du toit, on peut voir le mont Fuji là-bas. Hélas, pas aujourd'hui. De toute façon, personne ne vient jamais ici.
How do you find the atmosphere now?
Oh, now? Very strange.
L'ambiance est bizarre en ce moment. Tout est si calme. Alors ici, c'est le lieu, l'endroit où le chef des animateurs s'assied, c'est son bureau. Et donc, la plupart du temps, c'est le bureau de Monsieur Miyazaki. Évidemment, il n'est pas là aujourd'hui parce qu'il a fini avec sa dernière réalisation.
Plume d'oiseau, une aile d'oiseau, presque, qui permet d'enlever les petits déchets des gommes.
Administration.
Il y a un petit lavabo derrière la porte. Les femmes qui préparent le thé.
So that's pretty. That's all there is. That's the whole studio.
Otosan, okasan, o genki desu ka?
Ilan Nguyen, on a la chance aujourd'hui d'être dans l'antre de Otsukasan. Est-ce que vous pouvez, avant de commencer l'interview, en deux mots, nous présenter ce grand homme?
D'accord. Bien, Monsieur Otsukasan, donc c'est dans l'histoire du dessin animé au Japon, c'est l'un des plus grands animateurs de personnages, un des plus grands talents du dessin animé dans l'histoire de ce registre au Japon depuis la guerre. Et donc il est notamment celui qui a donné leur chance à un certain nombre de très grandes personnalités au Japon. Il a formé des centaines d'animateurs, il continue à en former aujourd'hui. Donc c'est une personnalité de premier plan dans le domaine technique du dessin animé.
Ce qui est sûr, c'est que nous avions en commun le rêve de nous distinguer de la production disneyienne. À nos débuts, Miyazaki, Takahata et moi-même avons cherché à nous rapprocher de l'esprit du français Paul Grimaud.
Son chef-d'œuvre, La bergère et le ramoneur, sorti dans les années 50 au Japon, a été pour nous une révélation. Certaines productions soviétiques, comme Le petit cheval bossu ou encore La reine des neiges, nous ont aussi profondément marqués. Autant d'influence, je crois, pour la suite de notre travail. Paul Grimaud.
C'est probablement la chose la plus longue, la plus difficile et la plus coûteuse, mais c'est le moyen, c'est la technique qui est la plus complète si on a des choses assez subtiles à exprimer, vous comprenez. Je préfère ça parce que c'est une écriture qui permet à l'animateur d'habiter son personnage, si vous voulez. Je trouve, il y a des films de marionnettes, par exemple, que je trouve très intéressants. Mais la marionnette, c'est un personnage qui existe et qu'on fait bouger, qu'on fait remuer, qu'on déplace. Alors que le personnage dessiné par un animateur, à partir du moment où l'animateur a conscience de ça et sait le faire, et qu'il a la possibilité de le faire, ça je trouve merveilleux, le fait de dessiner le personnage. Il se dessine lui étant le personnage, étant l'oiseau, étant le roi, étant le chef d'un pays. Il se dessine et le trait qu'il fait, c'est la limite entre lui, dans le personnage, et le reste du monde.
Je vous voyais farfouiller dans vos étagères, vous avez trouvé une pièce rare.
C'est une photocopie couleur de l'affiche japonaise du film au moment de sa sortie au Japon, La bergère et le ramoneur.
Mais vous savez, les choses ont beaucoup changé. À l'époque, dans le petit monde de l'animation, on se considérait comme une communauté. Le fait de partager peut-être un quotidien précaire nous a donné envie de mettre toutes nos forces en commun. Avec la naissance du studio Mushi Productions, fondé par le grand Tezuka, on a assisté à l'émergence d'une forme d'individualisme parce que la cadence des productions de ce studio était telle que les animateurs se sont alors perçus comme de véritables auteurs. En réalité, ils se contentaient d'adapter en séries télévisées des bandes dessinées très populaires au Japon. Petit à petit, l'ambition collective a donc été revue à la baisse, et depuis, je dois dire que plus rien n'a jamais été pareil. Miyazaki dit en avoir conçu les plans comme il conçoit ses films. Mitaka, banlieue de Tokyo. Le musée Ghibli se perd derrière un rideau de verdure. Ses courbes sont enfantines, ses murs couleur pastel. Miyazaki dit aussi vouloir y montrer que le cinéma est physique, qu'il y a des dessins, de la pellicule et surtout une accumulation des divers talents de ses collaborateurs. Une fois dedans, le visiteur quitte la passivité du spectateur. Dans un parcours initiatique, il suit les étapes détaillées de la fabrication d'un film d'animation, de la salle du travail reconstituée des animateurs, au bureau des storyboarders. Croquis, Cellulo, Kiki, Nausicaa, Totoro, des murs au plafond jusqu'aux vitraux, le musée Ghibli est la vitrine accessible au public de l'univers du réalisateur. Suivons toujours notre guide, Ilan Nguyen.
C'est la bibliothèque du musée où sont disposés les livres que recommande M. Miyazaki ainsi que le musée. Voilà.
Donc les Misérables, les aventures de Tom Sawyer, Le dernier des Mohicans, Le voyage de Gulliver, Les mille et une nuits,
Une journée d'été, par exemple, ça c'est un petit livre pour enfants qui raconte donc une journée de vacances d'un jeune garçon. Là, il y a des livres qui racontent dans un univers un peu fantastique les aventures d'une créature un petit peu fantastique qui est dessinée par une des animatrices du studio. Il y a un livre illustré de Kirikou. On a la traduction de Paroles de Jacques Prévert, donc le premier recueil de poésie de Prévert, donc qui est paru à la fin de l'année dernière dans une traduction de Takahata. On a également les ouvrages d'un écrivain qui s'appelle Hotta Yoshie, donc qui est un écrivain japonais du XXe siècle, qui a énormément marqué Miyazaki et qui a été couronné par l'un des plus prestigieux prix littéraires après la guerre au Japon. Fifi Brin d'Acier, donc là c'est le classique d'Astrid Lindgren. Les Trois Mousquetaires. On trouve énormément de choses.
La Piota ? C'est une photo que mon père a prise à bord d'un dirigeable. C'est une île qui flotte dans le ciel.
Une île qui flotte dans le ciel ?
Oui. Avant, on pensait que c'était qu'une légende. Mais mon père, lui, il l'a vue. Vraiment vu, et il l'a prise en photo. Regarde, dans les voyages de Gulliver, Swift a décrit un pays imaginaire, une île volante qui s'appelle la Piota. C'est mon père qui a fait ce dessin. Il disait que dans ce palais abandonné, dormaient des trésors inimaginables. Seulement, personne ne l'a jamais cru. Et ça lui a fait tellement de peine qu'il en est mort.
En 86 paraît donc la première production Ghibli, qui est la Piota. C'est Miyazaki qui réalise, et une fois encore, Takahata qui produit.
Oui.
On retrouve ce doublé gagnant ou pas qu'on avait trouvé sur Nausicaa. Pour vous, La Piota, c'est un des films importants de Miyazaki, un de ceux qui vous a le plus marqué. Pourquoi ?
C'est sans doute un sommet, La Piota, dans l'ensemble de la filmographie de Miyazaki, parle un certain nombre de caractéristiques. Et d'abord, celle qui est la pièce maîtresse, disons, en tout cas du style de Miyazaki jusqu'à cette époque-là. Et c'est... C'est un style qui est d'abord marqué par le cinéma muet américain, l'action pour elle-même, la jubilation de l'action, le slapstick, l'action invraisemblable mais qui entraîne son spectateur. C'est Buster Keaton qui court sur les ailes d'un biplan, qui est debout sur un pied sur une bûche poussée par une locomotive sur un chemin de fer, des choses absolument invraisemblables mais qui emportent l'adhésion.
Ils vont nous rattraper, pousse un peu la chaudière.
Là, il y a quelque chose qui est décisif dans le travail de Miyazaki et qui trouve un couronnement dans la Piota. Ce sont des motifs qu'on trouve tout au long de son travail dès les longs métrages auxquels il collabore à Toei, ensuite effectivement dans des séries télévisées auxquelles il participe comme animateur, que ce soit Lupin ou comme metteur en scène. Conan est complètement marqué par cette patte vraiment jubilatoire, une action purement échevelée où les personnages courent sur des plans inclinés absolument invraisemblables. On est dans du cartoon, dans un univers qui n'est pas réaliste, où l'action est là pour être d'abord entraînant. Et joyeuse, et plantée dans un récit simple, effectivement, dans un cadre narratif qui est limpide, qui est immédiatement intelligible, et qui entraîne le spectateur dans un...
Je ne m'échapperai pas! On va faire basculer ces wagons au fond de la vallée.
Quoi ?
Et s'accroche, la vieille !
Je vais m'en occuper.
Non, laisse-moi faire.
Attendez !
Dans une simplicité qui ne peut que le conquérir. C'est une forme de voix royale pour le cinéma d'animation, ou pour le cinéma de divertissement d'ailleurs aussi. Et donc... c'est quelque chose qui ensuite ne se trouve plus dans son travail, et de moins en moins. On le retrouve un petit peu par moment, par légère touche, dans ses films ultérieurs, mais quelque chose se termine avec La Piota.
Ils vont tomber !
Enferme-la ! Attendez, regardez bien !
En 88, deux films sortent, Le tombeau des Lucioles de Takahata, un vrai chef-d'œuvre aussi, mais un film en même temps très dur, qui est presque plus un film pour adultes, et Mon voisin Totoro, réalisé donc par Miyazaki de son côté. Chacun sort son film donc en 88, qui là est vraiment un film pour les enfants, un film très enfantin. Est-ce que dans ces deux films, on retrouve vraiment la complémentarité des deux hommes ?
La raison pour laquelle cette production a été lancée de manière double avec deux films, c'est d'abord une question de contingence. Miyazaki voulait réaliser donc ce film qui deviendra Totoro. Les gens de la Tokuma ne voulaient pas le produire parce qu'ils craignaient que ça ne marcherait pas. Une personne voulait une histoire avec un fantôme, une espèce de créature fantastique dans la forêt avec une petite fille dans la banlieue de Tokyo. Alors, Suzuki, donc l'homme de l'ombre, à ce moment-là, a monté une sorte de complot avec un compère à lui, donc chez Tokuma. Ils ont été voir un éditeur de la Shinchosha, donc c'est une des grandes maisons d'édition qui publiait donc un certain nombre de revues et qui notamment avait dans son catalogue un certain nombre donc de récits de l'écrivain qui s'appelle Nosaka Akiyuki, donc dont La tombe des lucioles. Suzuki avait proposé à Takahata, avait présenté le récit à Takahata. Takahata avait été intéressé par ce texte. Donc le montage a été le suivant, c'est que Suzuki a expliqué, si vous décidez de produire de financer la production d'un film d'animation donc à partir de La tombe du ciel, Tokuma lui précisément réfléchit à la production d'un film qui sera Mon voisin Totoro, réalisé par Miyazaki. On peut en coupler les deux et donc vous financez, nous on réalise et vous récupérez les droits et les deux productions sont couplées. Et donc ils se sont retrouvés confrontés à un problème absolument sans précédent et qui n'a pas je pense d'équivalent depuis, c'est de devoir concrètement effectivement réaliser deux films en même temps, l'un et l'autre, ayant l'habitude de travailler beaucoup avec les mêmes personnes, n'est-ce pas ? Donc il a fallu s'arracher les collaborateurs. L'un comme l'autre des films ont été produits dans des conditions extrêmement dures, sans doute insuffisantes, et dans des temps trop courts. Maintenant, ce sont l'un et l'autre de très grands films qui correspondent à un doublé assez extraordinaire, qui du coup marque très fortement l'époque, et sont deux des films qui, clairement, pour l'un comme pour l'autre donc de ces réalisateurs, sont des moments décisifs, sont là aussi des moments uniques dans leur carrière.
La nuit du 21 septembre 1945, je suis mort.
La première phrase du film, c'est la voix off de l'adolescent qui dit « je suis mort » la nuit du je ne sais plus quand d'ailleurs, mais il parle de sa mort. Effectivement, tout le récit est en fait celui d'une mort annoncée. À partir du film de Takahata, donc du Tombeau des Lucioles, on a commencé à voir apparaître des critiques positives concernant des films d'animation japonais en France. Le propos de ce film est a priori très dérangeant pour un dessin animé, puisque le sujet du film, c'est le destin tragique de deux orphelins dans les bombardements de Kobe, donc à la fin de la Deuxième Guerre mondiale au Japon. Donc c'est un film qui parle de mort, qui parle de deuil, qui parle d'un pays en déroute. Ce sont des choses auxquelles le public n'était absolument pas habitué dans le registre du dessin animé. Donc là, on est très très loin de toute féerie, de tout domaine enchanté ou enchanteur du dessin animé.
C'est l'adaptation d'une nouvelle, La tombe des Lucioles, d'un auteur très réputé au Japon, Nosaka.
Tout à fait. Oui, c'est une vision aussi très personnelle de Takahata. La nouvelle parle à la troisième personne, c'est-à-dire que Nosaka, alors que ça raconte une histoire qui est celle de, ou très proche de celle qu'a vécue effectivement Nosaka, mais Nosaka en est sorti vivant, hein, puisqu'il a vu mourir sa petite sœur adoptive, mais lui est sorti vivant. Et Nosaka parle sous la troisième personne en disant « il » pour, j'allais dire, d'une certaine manière, se sortir de ce drame et de ce drame qui a hanté sans doute sa mémoire, alors que Takahata fait le chemin inverse, c'est-à-dire que là où Nosaka dit « il », alors qu'il parle de lui, Takahata dit « je », alors qu'il ne parle pas de lui. C'est-à-dire qu'il remet complètement au centre la question de la culpabilité, en tout cas de la responsabilité plutôt, du jeune garçon dans ce drame.
Aux abris !
J'ai peur !
Ah !
Couche-toi !
pour moi, ça a été au départ un film limite, c'est-à-dire que c'est un film que j'ai vu. Je ne sais pas si j'ai pleuré physiquement, mais intérieurement, je pleurais. J'étais vraiment dans complètement prisonnier d'une émotion. Et c'est un film qui m'a énormément touché et que je me refusais à voir que contraint et forcé. Et j'y étais contraint, puisque j'ai été amené à travailler sur ce film et à le voir de nombreuses fois. Et il m'a fallu passer vraiment un cap pour pouvoir le voir et me détacher du film, pouvoir le voir sans être encore une fois prisonnier de cette émotion.
Isao Takahata, réalisateur du Tombeau des Lucioles et autres merveilles.
Au lieu de raconter des histoires, des épopées magnifiques avec des héros grandioses à qui arrivent des aventures magnifiques et puis se retrouver après avoir vu cela dans une réalité plus ou moins grise et tristounette, je suis comme tout le monde, je suis quelqu'un qui vit dans le monde et je réfléchis à la manière la plus agréable, comment rendre ma vie quotidienne, ordinaire, plus riche, plus belle, plus agréable à vivre. Donc c'est à ça que je réfléchis, c'est à ça que je m'attaque, c'est à l'embellissement de la vie quotidienne, mais pas raconter des histoires qui sont en dehors de la vie quotidienne. Ce qui me préoccupe, c'est qu'il y a de moins en moins de jeunes qui sont engagés, mais même engagés dans la réalité. Les jeunes japonais fuient la réalité, ils ne la regardent pas, ils n'essayent pas de la changer. Non seulement ils n'essayent pas de la changer, ils n'essayent pas de la regarder, et souvent ils fuient dans le monde virtuel. Et ça, c'est quelque chose qui me préoccupe vraiment.
Quel jour que c'est, aujourd'hui ?
Oui.
Quel jour ça pouvait-il bien être ? Combien de temps qu'il était là ? Dans une lueur de conscience, il vit le sol en béton juste sous ses yeux, sans pour autant s'apercevoir qu'il gisait sur le côté, dans une posture identique à celle qu'il avait quand il était assis, le corps plié en deux, les yeux obstinément fixés sur la fine couche de poussière qui, à la surface du sol, frémissait au rythme de sa faible respiration, et se demandant seulement « Quel jour qui peut être ? Quel jour que c'est ?» Seita expira. C'était au cœur de la nuit du 21 septembre 1945, le lendemain du jour où fut décrété le plan général pour la protection des orphelins de guerre. Akiyuki Nozaka, la tombe des Lucioles.
Et là, effectivement, la violence de ce film, la cruauté de ce film n'est absolument pas une cruauté gratuite. C'est bien une véritable éthique dans le film, puisque si on parle si on montre la mort et le destin donc de ces deux enfants, ce n'est pas du tout pour s'apitoyer sur leur destin en tant que tel, mais c'est pour poser la question de la responsabilité collective qui peut s'exercer aussi bien chez les adultes que chez les adolescents dans des situations tragiques ou dures ou extrêmes que peuvent être par exemple la guerre. Takahata pose la question de dire si une guerre devait se produire aujourd'hui, est-ce que les adolescents d'aujourd'hui, est-ce que les adultes d'aujourd'hui réagiraient de façon vraiment plus exemplaire que ceux de 1945 ? Il pose en fait la question politique majeure de son œuvre, qui est la question du vivre ensemble. Comment vivre ensemble et pourquoi vivre ensemble aujourd'hui ? Alors, il y a ce naturalisme qui est aussi bien dans l'œuvre de Takahata, enfin ce réalisme plutôt que le naturalisme, que l'on voit aussi bien à l'image, puisqu'il y a un souci très clair de rendre compte de la réalité de Kobe en 1945. Seul le dessin animé permet cette reconstitution historique avec cette justesse-là. Mais ce réalisme passe aussi, on l'a vu dans le son. Le son, c'est la musique de Mamiya qui se fond dans une approche très précise du son. On a entendu tout à l'heure les obus qui tombaient dans ce sifflement sur Kobe. Que seul, vraisemblablement, quelqu'un qui a vécu ce type de bombardement peut rendre avec cette justesse.
Non, je pense quand même que le cinéma en prise de vue réelle est aussi, peut-être aussi très efficace pour parler de la réalité. Mais je ne veux pas faire de hiérarchie. Je ne veux pas dire que les films d'animation sont mieux ou moins bien que les films en prise de vue réelle. Je pense simplement que, peut-être pour parler de l'imaginaire, quelquefois l'animation est plus se prête mieux à ce genre de sujet. Mais effectivement, pour montrer les détails, l'animation est peut-être plus adapté, et peut-être aussi pour parler de la réalité d'une certaine manière, elle est aussi, je ne veux pas dire plus meilleure, mais ça peut être très efficace parce que ça change. Quand c'est des prises de vue réelles, vous montrez un cadre de vie que vous connaissez et ça enlève un peu de la concentration. Là, le fait de présenter les mêmes paysages mais dessinés peut apporter un vent de fraîcheur qui apporte plus de concentration et vous concentrez plus sur l'histoire et sur la réalité, si c'est de ça dont vous voulez parler dans ce film. Et je pense que l'animation peut aussi permettre cela.
Alors, il est peut-être temps d'apporter un détail que tout le monde ne connaît pas forcément. Takahata ne dessine pas. Takahata n'est pas un animateur, c'est un réalisateur. Est-ce que ça change beaucoup dans la construction de ses films, dans son approche de ses films par rapport à celle de Miyazaki, par exemple, le fait de ne pas dessiner lui-même? Est-ce que ça constitue un handicap pour lui?
Non, alors je crois qu'il ne faut vraiment pas parler de handicap. C'est vrai qu'on a du mal, comme on connaît encore très peu le dessin animé en général, on a du mal à penser que l'art du dessin animé est un art cinématographique et donc un art de la mise en scène avant tout. Il y a un autre exemple très important de réalisateur d'animation qui ne dessine pas, ou qui ne dessinait pas, c'est René Laloux, le réalisateur de La Planète Sauvage. Et on a souvent oublié que La Planète Sauvage tient autant, si ce n'est plus, au talent de René Laloux qu'à celui de Roland Topor. Non, pour Takahata, ce n'est évidemment pas un handicap. Évidemment, par contre, il aborde les films de façon différente, c'est-à-dire avec une véritable construction du scénario, de la mise en scène a priori, puisqu'effectivement la mise en scène ne procède pas du dessin. Mais l'art de la mise en scène chez Takahata passe aussi par le choix et la direction très particulière qu'il exerce vis-à-vis de ses décorateurs, de ses animateurs, ce qui fait qu'on a l'impression, on est dans une œuvre collective, bien évidemment, mais qui est tendue par un projet artistique et esthétique commun, ce qui fait que c'est une œuvre, Le Tombeau de Luciole, comme d'ailleurs chaque film de Takahata, sont des œuvres d'une homogénéité, d'une force esthétique hallucinante.
Il n'y a pas de patte graphique signée Takahata, comme il peut y avoir une patte graphique Miyazaki.
C'est d'une certaine manière un handicap pour les films de Takahata dans la perception qu'on peut en avoir en France. C'est-à-dire qu'effectivement, on reconnaît au premier coup de crayon Miyazaki. En plus, ça n'est pas le moindre des dessinateurs, c'est l'un des plus grands dessinateurs du XXe siècle. Dans Le Tombeau des Lucioles, on est dans l'esthétique est assez proche de... enfin, n'a rien à voir avec Miyazaki, mais à la fois assez proche de ce qu'on entend par un film produit aussi au Ghibli. Mes voisins les Yamada est un film beaucoup plus déconcertant, puisque là, on est dans un traitement caricatural. Enfin, on est dans la caricature, dans une forme de caricature, au niveau du traitement des personnages, dans un rendu pastel sur un grain de papier particulier. Donc, on est dans un travail de recherche qui n'a rien à voir avec, avec ce qu'a produit le studio Ghibli jusqu'avant. Miyazaki construit ses récits en les dessinant. Il passe tout de suite à l'étape du storyboard, c'est-à-dire qu'il n'écrit pas de scénario. Et j'allais dire, le récit, il pousse devant lui le récit. On pourrait dire qu'il entre dans le récit comme on entre dans une forêt. C'est-à-dire, il doit savoir effectivement où il va, mais on a l'impression qu'effectivement, chaque scène, et surtout à partir de Princesse Mononoké, c'est vrai, très très vrai dans Chihiro, on a l'impression que chaque scène engendre naturellement celle qui vient après. Mais naturellement dans un sens très intime, hein, c'est-à-dire que oui, il y a une forme d'obsession ou d'idée fixe qui non déclarée qui semble guider le récit. Mais on est effectivement dans un voyage intérieur complètement.
Le Tombeau des Lucioles et Mon Voisin Totoro ne sont pas des films bénéficiaires dans leur exploitation en salle. Et si on regarde la courbe des chiffres faits par ces films, aucun de ces films n'a atteint le million de spectateurs. Entre Nausicaa, Laputa et le doublé ensuite, parce que les deux films sortent ensemble en un programme commun, et donc leurs résultats sont, en tout cas en nombre de spectateurs, est commun, et bien ces trois étapes représentent une baisse du nombre de spectateurs. D'ailleurs, on doit faire 700 000 spectateurs sur Nausicaa, et on descend ensuite. Sur Laputa, il y en a moins, et Le Tombeau du Ciel et Totoro, il y en a encore moins. Et donc là, il y a un problème qui se fait jour. M. Suzuki en parle dans un de ses écrits. Il explique qu'à un moment donné, au moment de la production de La Petite Sorcière, pour parler français donc, un distributeur, donc une personne de Toei, qui a distribué aussi bien Nausicaa que Laputa, et qui a refusé de distribuer la production donc, suivante, un responsable de Toei lui a dit: écoutez, c'est bien, vous réalisez de bons films, mais j'ai le sentiment que celui sur lequel vous vous lancez là, ça va être le dernier. Et donc celui qui est très surpris lui dit: mais pourquoi? Et l'autre lui dit: bah, vous voyez, la courbe elle descend, et là vous allez faire ce film là, et ce film là va sans doute faire encore moins, et ensuite on vous confiera plus les budgets pour produire d'autres films. Et donc à ce moment-là, Suzuki prend conscience d'une nécessité qui est celle de promouvoir les films. Et c'est vrai que chaque film considéré comme un pari, qui s'il est voué à l'échec, signe la fin de l'aventure, eh bien cet esprit-là, un peu pirate, quoi, un peu forban, eh bien va s'effacer à partir du moment effectivement où Kiki la petite sorcière va... Suzuki va s'occuper en amont dès la production effectivement de consacrer du temps, de l'énergie, de l'argent à la promotion, et donc ce film là lorsqu'il sort a un impact plus important que les films précédents, et donc là la vapeur est inversée, et à partir de ce moment là effectivement le nombre de spectateurs va augmenter. À partir de ce moment-là, le studio va commencer à dégager de plus en plus de bénéfices, et c'est ce qui fait aussi que c'est dans ces années-là que commence à se faire jour l'idée ou l'idéal de s'inscrire dans la durée, de ne plus simplement recruter les gens au coup par coup pour une production et qu'on va ensuite laisser, donc une fois qu'elle est arrivée à son terme, des équipes donc qu'on va laisser se disperser ensuite, mais s'inscrire dans la durée, embaucher les gens effectivement dans des contrats à durée indéterminée, élever leur salaire au niveau standard qui est celui des salaires au Japon. Les gens qui travaillent dans le dessin animé au Japon travaillent dans des conditions de misère que vous auriez du mal à imaginer, je pense. Hein. On est largement en deçà de tout seuil légal.
C'était pas un rêve.
C'était un rêve.
C'était pas un
Donc à partir de là, cette fameuse courbe d'audience ne cesse de monter jusqu'à Chihiro. Chihiro, c'est vraiment le sommet. On atteint l'Olympe, là, des résultats pour nos amis producteurs. Ou quoi, c'est quoi, 23 millions d'entrées au Japon.
Premier film, enfin en tout cas effectivement le film ayant réuni le plus de spectateurs de toute l'histoire du cinéma, non pas du cinéma japonais, mais du cinéma au Japon. C'est-à-dire que c'est le film dans toute l'histoire du cinéma mondial, de tous les films au monde qui ont été présentés au Japon, avoir vu le plus de spectateurs de toute l'histoire. Et c'est vrai que 23 millions de spectateurs, aujourd'hui, en particulier dans le contexte du cinéma au Japon, ça revient à dire qu'un Japonais sur 5 est allé voir ce film au cinéma. Je ne sais pas quel équivalent on pourra trouver pour la France, hein. Je ne vois pas d'équivalence, surtout pas pour un film d'animation. Le fait que ce soit un film d'animation qui détienne ce record-là avant la prise de vue réelle, il y a là quelque chose de spécifique qui, je pense, peut nous dire quelque chose sur la place du dessin animé au Japon aujourd'hui.
Et d'une certaine manière, enfin, moi ce qui me frappe aussi dans le voyage de Chihiro, pour moi c'est une forme de sommet presque baroque ou rococo de l'œuvre de Miyazaki. C'est-à-dire que on a le sentiment qu'il convoque, il y a presque un trop-plein d'imagination de personnages, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il convoque tout ce que son imagination peut produire et qu'il y a une volonté de presque de purge de cet imaginaire, comme si effectivement cet imaginaire gangrenait ou envahissait sa personnalité à l'image de ce qu'on a vu tout à l'heure sur Princesse Mononoke. Et une image qui pour moi est très représentative dans le film de Chihiro, c'est le moment où effectivement le génie de la rivière vient prendre un bain et il se vide complètement de son contenu. Alors là on peut lire l'image, enfin la scène à deux niveaux différents. On peut effectivement y voir une référence écologique, c'est-à-dire un génie de la rivière venant se purger de tout ce qui le contamine et qui sont effectivement des éléments factuels, enfin des éléments liés à la pollution humaine, puisqu'on voit effectivement surgir des carcasses et autres éléments qui sont effectivement liés à la pollution que l'activité humaine peut engendrer. Mais aussi on peut lire une volonté d'englober à l'intérieur de ce film tout l'ensemble de son univers, l'ensemble de ce qu'il a dans la tête, et à la fois une volonté de le dépasser ou de s'en débarrasser.
Toshio Suzuki, producteur et président du studio Ghibli. L'animation est un support qui fait d'abord appel au dessin. Ce qui me frappe très souvent dans la réussite des films de Miyazaki et de Takahata, ce sont les silences. Les scènes où la parole n'est pas en jeu. Souvenez-vous, dans le château ambulant, quand la sorcière confisque le cœur du prince, elle le presse contre elle ne veut pas le rendre. Sophie s'approche, elle passe sa main sur les épaules de la sorcière. Sans un mot, par un simple regard, elle lui fait comprendre qu'elle veut rendre le cœur à son bien-aimé. Et progressivement, la sorcière cède et rend le cœur. Et bien cette scène a bouleversé le Japon. Les films que vous produisez sont toujours un compromis entre l'artistique et le commercial, qu'on a tout le temps tendance à opposer normalement. Alors est-ce que c'est ça, une des clés du succès encore ?
C'est mon idée. Est-ce que c'est ça ? En France, いわゆるヌーベルバーグっていうものが登場するまで、ね、映画には両方入ってました。ハリウッドの映画であろうが何だろう。
Permettez-moi de me référer à votre cinéma. Avant l'apparition de la nouvelle vague, l'artistique et le commercial étaient toujours liés. Après la nouvelle vague, il y a eu une scission entre les deux formes cinématographiques. Et bien Ghibli, selon moi, s'inscrit dans la lignée du cinéma d'avant la nouvelle vague française. La patte Ghibli dans le mouvement, on parle souvent d'une école du mouvement. En quoi elle est tout à fait identifiable pour nous qui ne sommes pas des spécialistes d'animation?
Oui, alors en fait c'est un héritage de Paul Grimaud, d'une part, donc le réalisateur du Roi et l'Oiseau, et de l'animation soviétique, en particulier tel que Atamanov, le réalisateur de La Reine des Neiges, le pratiquait. En tout cas, l'idée de Miyazaki, de Takahata et de deux autres animateurs très importants qui sont Otsuka et Kotabe, est que ce qui fonde l'animation, c'est précisément le mouvement. C'est-à-dire que l'enjeu n'est pas de faire bouger des personnages ou de faire bouger des décors, mais c'est de donner une âme à ce qui est présent à l'écran par le mouvement. Donc l'âme, et le terme d'animation rejoint la dimension de l'âme, hein, puisqu'on parle anima, c'est l'âme. L'âme procède de la façon, enfin de l'art du mouvement. Voilà. Donc effectivement, la façon, pour être très simple, la façon dont Chihiro évolue, met en jeu complètement sa psychologie, de la même façon qu'un acteur le fait à l'écran. Voilà, il y a un rapport un petit peu de... On peut dire qu'un animateur compose un personnage dans le mouvement, de la même façon qu'un acteur donne vie à un personnage. Un acteur est un corps, hein, on l'a souvent dit. Personne ne bouge comme Gary Cooper. D'une certaine manière, personne ne bouge comme Chihiro. C'est pas bouger, c'est véritablement être en mouvement. Ce sont des corps en mouvement, les corps de l'animation. Et c'est quelque chose qui différencie beaucoup Ghibli d'autres tendances esthétiques où l'animation n'est pas en soi un enjeu, où effectivement on va déplacer des personnages plutôt qu'on va les animer, et on va faire davantage passer leur psychologie par le texte ou par l'expression des visages.
Soitez, bien! Soitez, super! Allez, avancez jusque-là! Moto, Coco! Moto! Yeah! Moto, stop! Ok, coach! Ah, moto, Coco! Coco! Coco, non! Ipayito! Ok? Allez, serrez les amis!
Là, c'est un des lieux d'exposition permanent. C'est donc la recréation par M. Miyazaki du cadre de travail des animateurs. C'est le lieu où naissent les films. Voilà. Et donc là, on entre dans un lieu de travail dont les murs sont truffés, garnis là encore de croquis préparatoires, d'esquisses, de recherches, de feuilles de modèles. Alors on trouve de tout. Il y a des travaux de Nordstein, des films de M. Miyazaki. Alors on a franchi à nouveau une porte. On se trouve dans le dernier espace de cette reconstitution des différentes étapes de travail. C'est un bureau d'animateur qui est reconstitué. Le travail du mouvement et de la création du mouvement se fait sur ces tables lumineuses qui permettent, donc par le rétroéclairage, de comparer différentes étapes du mouvement, et on flippe, n'est-ce pas, on feuillette. C'est en feuilletant qu'on va reconstituer le mouvement et qu'on va vérifier sa forme et son timing. Donc ici, on a sur ce mur un certain nombre d'étapes de cellulos, d'étapes du mouvement, qui ont été gouachées. Vous avez là-haut une série de dessins du personnage principal de Mononoke. En dessous, les cellulos, vous voyez qu'ils correspondent en termes de numérotation aux références des dessins. Et leur succession donne à saisir à quel point le travail de l'animation est un travail vraiment de lent, minutieux et extrêmement long.
Et c'est là que l'image va être fixée sur la pellicule.
Oui, c'est ça. C'est le travail donc de la prise de vue qui amène à un négatif master du film. Et donc là, voilà, on a le travail ensuite de montage, de découpage et les fameuses galettes, les boîtes donc de 35 mm.
Pour ce qui est du maléfice, toi, on t'a pas loupé. Et pour t'en libérer, c'est pas gagné-gagné, hein.
Et voilà le feu qui cause.
Et tu ne peux en parler à personne.
Vous êtes à Oru?
Ah non, pas du tout. T'as tout feu. T'as tout faux. Moi, c'est Calcifère. Je suis le démon du feu.
Eh ben, Calcifère, tu vas pouvoir me libérer de cet effroyable mauvais sort.
Mais c'est qu'elle s'enflamme, la petite dame. Non, il faudra d'abord que tu me libères du sortilège qui m'enchaîne ici. Ensuite, je te libérerai aussitôt du tien.
Il va donc falloir que je pactise avec un démon? Mais toi, est-ce que tu tiendras ta promesse?
Un démon, ça fait jamais de promesse.
Dans ce cas, tu t'es trompé d'adresse.
Je suis un démon malheureux. Je suis lié par ce pacte, cloué à cette cheminée, un esclave sous la tyrannie d'Aourou. Parce que c'est grâce à moi s'il déambule ce château.
Et oui, ta vie est un enfer.
Si tu découvres le secret de ce pacte, je serai libéré de cet envoûtement. Alors à mon tour, je pourrai te libérer.
Autrement dit, c'est un marché.
Everything is completely handmade. You don't. Although maybe it's true with a live-action film, I don't know. But directors regard their films. They take everything.
Vous savez, tout est fait à la main. Les réalisateurs regardent d'ailleurs leurs films comme leurs propres enfants.
They often say they feel about their films like they're children. And I would have to say that the directors at Studio Ghibli.
C'est pourquoi quand ces films s'apprêtent à être distribués à l'étranger, ils s'assurent avant tout qu'aucune modification ne sera faite.
First concern is they want to make sure we don't change anything. We never make any kind of compromise just for money. We never do anything to allow the films.
Je dois vous dire ici que nous n'avons jamais fait le moindre compromis pour de l'argent. Jamais fait le moindre compromis pour que le film se vende mieux. Je vais vous raconter une histoire. Dans les années 80, un contrat de distribution a été signé avec une compagnie américaine. C'était pour Nausicaa de la Vallée du Vent. Eh bien, l'œuvre de Miyazaki a été altérée, coupée, mal traduite. La musique a été changée, absolument n'importe comment. Et au résultat, eh bien, Miyazaki a été horrifié. Il n'aurait jamais cru qu'on puisse faire une chose pareille à l'un de ses films sans lui demander sa permission. Alors là, on s'est dit, bon, on arrête tout. Puis en 1996, Disney nous a fait une proposition, la seule qui ait jamais rempli toutes nos conditions, à savoir, pas le moindre changement.
Monsieur Ghibli, représente une sorte de deal au large de la production animée japonaise et c'est une sorte de bulle qui est complètement à part. Il faut comprendre que les gens qui travaillent dans ce studio sont complètement à l'écart de la profession du dessin animé dans son ensemble. Ils bénéficient de conditions de vie, de travail, de création qui n'ont rien à voir, qui sont incomparables avec la réalité de ces métiers-là au Japon par ailleurs. Et donc, en termes formels également, ils ont l'habitude de travailler des films d'un niveau d'animation, d'un style d'animation qui n'a quasiment plus d'existence par ailleurs au Japon. Miyazaki vampirise les forces créatives de ces. C'est-à-dire, il met à son service le travail d'un certain nombre de gens. Mais il est plutôt, on pourrait dire, plutôt castrateur que vampirisateur, n'est-ce pas, pour ce qui concerne de la créativité en elle-même.
Masashi Ando, directeur de l'animation sur le voyage de Chihiro et sur Princesse Mononoke. Le travail de Miyazaki m'a toujours impressionné par sa qualité. Ce que j'appréciais le plus à Ghibli quand j'y travaillais, c'était l'importance donnée à une certaine perception de la réalité dans l'univers des films. Une sensation d'espace et de profondeur imposante et parallèlement la vie sensible des personnages à l'intérieur de ce cadre. Mais vous savez, cette intelligence du dessin, j'ai fini par comprendre qu'on pouvait aussi la trouver ailleurs qu'au studio Ghibli. En même temps, j'ai pris conscience des difficultés à évoluer auprès d'une personnalité aussi forte que celle de Miyazaki. Face à sa propre vision des choses, il n'y avait plus qu'une chose à faire pour nous, animateurs, s'aligner sans cesse sur ses exigences. Et pour y parvenir, il fallait donc ranger sa propre créativité. Cette désagréable sensation de n'être qu'un bon exécutant a fini par être source pour moi d'une grande inquiétude. Et c'est pourquoi, après le voyage de Chihiro, j'ai choisi de quitter le studio Ghibli. Hayao Miyazaki, propos recueillis par Ilan Nguyen.
Si l'on veut comprendre ce qui se joue dans la réalisation d'un film, un seul moyen, être là, en studio, au moment de sa fabrication. Pour qui a l'œil, il suffit d'être là pour saisir l'essentiel. En revanche, pour celui qui ne sait pas voir, toutes les explications resteront superflues. Il y a des choses qui ne s'enseignent pas. Mais bon, ce qui m'a vraiment énervé, c'est ce qui se dégageait parfois des dessins de mes élèves. Par exemple, je leur ai demandé de dessiner une séquence à partir d'un livre illustré pour enfants. Ils avaient le choix entre trois histoires. Et malgré tout ça, certains n'ont même pas été capables d'avoir un regard bienveillant à l'égard de leur personnage. En l'occurrence, il s'agissait d'une petite fille. Ça m'a mis dans une colère noire. C'est bien la preuve que leur démarche était fausse depuis le début. Je leur ai dit, si c'est là le genre d'ânerie que vous voulez exprimer, abstenez-vous d'en faire des films. En somme, si vous êtes incapable d'éprouver la moindre empathie avec le personnage que vous dessinez, c'est que vous n'êtes pas fait pour le cinéma. C'est comme ça que j'ai fait fondre en larmes un certain nombre de mes élèves.
Xavier Kawatopor, pour conclure, est-ce qu'il y a une relève possible à Miyazaki et Takahata au sein du studio Ghibli?
Je ne pense pas que Miyazaki soit une personnalité qui puisse passer le relais. Je crois que c'est, on dit que rien ne pousse au pied d'un grand arbre, c'est un petit peu le cas. Je crois que c'est une forme de génie, j'allais dire, exclusif d'une certaine manière. Takahata est dans un rapport différent à la création, et donc on pourrait penser que Takahata pourrait davantage passer un relais. Et à la fois, je crois que c'est quelqu'un dont l'influence est très importante pour plusieurs générations de réalisateurs. Mais sans qu'il y ait aujourd'hui un disciple qui se révélerait comme pouvant prendre une suite dans le studio Ghibli. Je crois que c'est sans doute ailleurs, dans d'autres studios, que des réalisateurs sont en train ou ont mis en place d'autres univers, d'autres approches du cinéma d'animation qui sont appelés à proposer non pas une relève, mais plutôt de nouveaux épisodes au dessin animé japonais. On peut penser à Kon Satoshi, le réalisateur de Perfect Blue, de Tokyo Godfather, qui a un univers très particulier et à la fois qui apporte quelque chose aussi de complètement différent au cinéma d'animation. Et puis bien sûr des réalisateurs plus connus comme Otomo et Oshii qui développent des sensibilités particulières qui ne sont pas dans la veine de Miyazaki et de Takahata. Je crois qu'il y a aussi un changement de génération qui fait que les thèmes, les façons d'aborder le dessin animé ne sont plus reproduisibles.
Arrête de me suivre, tu ne me dois rien, rien du tout. Au bout du compte, tu es sûrement l'œuvre d'un sorcier. Je te remercie, mais j'ai eu ma dose de charme et de sortilège pour aujourd'hui. Alors va te planter ailleurs et laisse-moi tranquille.
Satoshi Kon, réalisateur de Perfect Blue et autres merveilles. Les films Ghibli sont remarquables, mais ils ne me touchent pas. Je pense qu'il y a des projets de plus grande envergure à réaliser. Et là où je tiens surtout à prendre mes distances avec le studio, c'est sur le plan graphique. Le style Ghibli ne m'intéresse absolument pas.
Et cette phrase de l'animateur français Paul Grimaud, justement sur le rôle de l'animateur, le sens de l'animation, je ne sais pas si elle vous convient. Alors il dit le dessin animé est la chose la plus longue, la plus difficile, la plus coûteuse, mais aussi, c'est aussi la technique la plus complexe si on a des choses assez subtiles à exprimer.
Pour moi, la force de l'animation tient à la nature même du dessin. Il renforce l'impact de l'idée que l'on souhaite transmettre. Par exemple, quand vous achetez un appareil électronique, vous avez un manuel. Et dans ce manuel, les explications sont souvent accompagnées d'illustrations, alors même que les textes pourraient s'appuyer sur des photos. Ce choix, pour moi, n'a rien d'anodin. Par le dessin, on peut éliminer tout superflu, et du coup, l'essentiel ressort encore plus clairement. Tout ça pour vous dire que quand on parle de réalisme en dessin animé, il ne s'agit pas de se calquer sur la réalité photographique des choses, mais bien de partir de cette réalité pour lui ajouter une déformation qui fait sens.
Bienvenue.
Takashi Namiki, collectionneur et critique excentrique.
Interview angoissante en perspective, hein,
oui.
Ça donne ça.
Ah, oui. Bienvenue dans le premier des films de l'enfer.
Oli, oli. Ah,
oui. Il a des bruits de pas de lui aussi.
C'est
le bruit de guetta de l'espace, donc les guetta du futur sur fiction japonaise.
On est donc en compagnie de Takashi Namiki, qui est on le décrit comme un collectionneur fou, un critique aussi, et puis il a été animateur dans ses tout débuts.
30 ans前から
Oui, écoutez, depuis à peu près une trentaine d'années, pour ce qui relève du son, moi ça fait 40 ans à peu près que je rassemble des documents sur le cinéma d'animation et les gens, les créateurs dans ce registre pour lequel j'ai le plus grand respect, moi, dès cette époque, m'apparaissaient déjà comme des personnes âgées. Et donc, il faut savoir également qu'à l'époque, le cinéma d'animation n'était absolument pas considéré au Japon comme un art, en quoi que ce soit. C'était considéré comme un registre voué à une disparition assez rapide. Et moi, je voulais effectivement, par rapport à cette idée-là, prendre le soin de garder trace au maximum du parcours de ces différentes personnes pour lesquelles j'éprouvais donc un respect. Par rapport à leur travail
aujourd'hui,
il faut bien le dire, M. Miyazaki est déjà vieillard. Et moi, mon sentiment le plus franc, c'est pour vous le donner, c'est... Moi, j'aimerais bien qu'on parvienne à le laisser se reposer un petit peu et qu'on on arrête de le faire travailler. Comment dire ? C'est quelque chose qui, en même temps, je pense du point de vue de la jeune génération, qui se trouve dans ce studio, il y a aussi quelque chose qui est sans doute inexplicable ou qui est contre nature, qui est de se dire, voilà, ce bonhomme, ce grand bonhomme qui a réalisé énormément de choses, jusqu'à quand est-ce qu'on va nous fixer un cadre qui va être de ne pas imaginer pouvoir le dépasser ou le faire autre chose, mais de l'avoir effectivement un peu sur le dos, sur les bras. Vous savez, je pense que dans le dessin animé japonais, et même peut-être on peut inclure les États-Unis, je ne crois pas qu'il existe de réalisateur qui ait produit autant de travaux, qui ait fait autant de choses dans le dessin animé. Alors, si on considère la production Disney en particulier, c'est une évidence totale, puisque à chaque fois il s'agissait d'un travail collectif de réalisation à plusieurs. Je ne pense pas vous trouverez une personne dans le dessin animé au Japon ou dans la production étrangère qui ait fait autant de choses en dessin animé. Et je pense que, puisqu'il a réalisé autant de choses, il faut aussi lui donner un petit peu la possibilité de souffler, la possibilité de se reposer. Pour nous autres qui avons assisté effectivement à l'ensemble de son parcours, et notamment effectivement à toute sa phase d'affirmation en tant que créateur, il y a un autre travers qui est d'attendre de lui toujours la même chose, de lui dire produisez-nous, donnez-nous la même chose que vous nous avez donné par le passé. Ça aussi, c'est pas normal. C'est quelque chose qui est bizarre, c'est quelque chose qui est infondé et qui est idiot, en un sens. Moi, c'est pas ça que je demande. Ce qui me semble logique, c'est de se dire, puisqu'il a produit effectivement tous ses trésors, eh bien, reconnaissons-les comme tels et sachons nous en satisfaire. Ce que je peux vous dire de manière sûre, c'est que ce que pense aujourd'hui, ce qu'a en tête Monsieur Suzuki, c'est de savoir comment en finir avec le studio Ghibli, comment faire disparaître ce studio, en tout cas comment, quelle fin donner à ce studio, quel atterrissage le plus doux possible donner à ce studio. Voilà. En tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est que je me réjouis dans un avenir pas si lointain que ça, et en tout cas de mon vivant, d'être encore là pour voir la fin de cette histoire et de la fin du dessin animé au Japon. Puisque pour tous les films, pour quelques films qu'on voit, qu'il souhaite en général le voir jusqu'à ce que s'imprime le mot fin.
The end.
J'ai faim.
C'était Les Bons Génies du studio Ghibli avec Xavier Kawatopor, Stéphane Alpert, Toshio Suzuki, Isao Takahata, Ilan Nguyen, Masashi Ando, Satoshi Kon, Takashi Namiki et Yasuo Otsuka. Une émission d'Olivia Gesbert, réalisation Gaël Gillon, mixage Jean-François Néolier. Merci aux responsables du prix Robert Guillain et à France Joseph, sans qui ce voyage au Japon n'aurait pas vu le jour. À Atsuko et Pierre Barou pour leur accueil, à Olivier Caterin de l'AFCA et Jacques Colomba pour leurs conseils, à Ilan Nguyen et Guy Vanctil pour leur traduction.
C'était Les Bons Génies du studio Ghibli, Hayao Miyazaki et Isao Takahata, une émission de Surpris par la nuit d'Olivia Gesbert, réalisée par Gaël Gillon et diffusée pour la première fois le 24 mai 2006, avec entre autres Toshio Suzuki, Hayao Miyazaki, Isao Takahata, Satoshi Kon et Paul Grimaud. Téléchargement et réécoute sur le site de France Culture, à la page des nuits et sur l'application Radio France.